Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La semaine dernière, nous avons vu que la théorie de l'évolution était en contradiction avec la parole de Dieu. La théorie de l'évolution est une supposition qui n'a jamais été prouvée. Le grand Larousse encyclopédique en 10 volumes nous en dit ceci. Théorie admettant la continuité du monde vivant, les formes animales et végétales dérivant les unes des autres par filiation. L'idée de l'évolution des êtres organisés à partir d'une souche commune remonte à l'Antiquité grecque. Aujourd'hui, les généralistes ne doutent plus de l'évolution, mais ils ne s'entendent plus sur les causes, sur le mécanisme des transformations du monde vivant. Les divers types de végétaux et d'animaux sont apparus successivement dans le temps, selon un ordre rigoureux allant du simple au plus complexe. L'évolution est-elle terminée? Actuellement, tous les grands groupes paraissent statiques. Depuis des milliers d'années, aucune nouvelle famille n'est apparue. Le fait de l'évolution est établi avec une rigueur suffisante, mais son mécanisme demeure hypothétique. Des hypothèses variées ont été proposées. Aucune de ces hypothèses ne donne une explication définitive des transformations des plantes et des animaux. Toutes sont passibles de critiques graves et laissent sans solution d'innombrables problèmes. Ce même ouvrage définit le mot « biogenèse » comme suit. Théorie d'après laquelle tout être vivant vient d'un être qui lui a donné naissance. Elle est donc le contraire de celle des générations spontanées. Fondée par l'Italien Francesco Redi et définitivement démontrée par Pasteur, la biogenèse ne s'applique cependant en toute rigueur qu'à la nature actuelle ou aux actuelles conditions réalisées en laboratoire. Si l'on repousse le créationnisme, il faut en effet admettre à l'origine la formation de substances vivantes à partir de la matière inorganique. Fin de citation. Autrement dit, si l'on repousse Dieu et sa parole, on est obligé d'admettre que la formation de substances vivantes n'a pu provenir que de matière morte, inorganique. Il s'agirait donc d'une génération spontanée. Autrefois, on croyait que la matière morte pouvait donner naissance à des animaux d'ordre inférieur, tels que des asticots, des poux, des limaces, des souris, etc. Mais Francesco Redi démontra que la croyance en la génération spontanée était erronée. La vie ne provient que de la vie. D'ailleurs, ce même ouvrage ajoute que Louis Pasteur, par les expériences les plus ingénieuses, qui sont le modèle le plus parfait de la méthode expérimentale, put affirmer en 1862 que la génération spontanée était une chimère. Louis Pasteur a donc réfuté la théorie de l'évolution, mettant ainsi les évolutionnistes dans l'embarras. Ce qui est sans vie ne peut transmettre la vie. C'est aussi simple que cela et c'est tellement logique. Selon les partisans de la théorie de l'évolution, la vie aurait fait son apparition sur notre planète il y a 2 ou 3 milliards d'années par génération spontanée progressive. La théorie de l'évolution est donc la supposition selon laquelle la vie aurait émergé de la matière inerte, de la matière morte, pour suivre une chaîne de transformation toujours plus complexe jusqu'à l'homme. Certains théologiens et scientifiques admettent qu'à l'origine, Dieu a bien créé quelque chose, mais ils prétendent que Dieu a laissé ce quelque chose aux soins de l'évolution pour le transformer progressivement et en aboutir à tout ce monde vivant qui nous entoure. Ceux qui condescendent à lui reconnaître le mérite d'avoir créé l'homme grâce à un processus évolutif doivent se rendre compte qu'une telle croyance fait de Dieu un être faible et menteur. Elle réfute la Bible qui affirme que Dieu est un créateur et non un évolutionniste. Comment un chrétien pourrait-il croire que Dieu a menti dans le livre de la Genèse et qu'il lui a révélé la vérité sur le salut individuel dans le Nouveau Testament? Pourtant, le récit de la Genèse est tout aussi authentique que n'importe quel autre passage biblique. Si une partie de la Bible est fausse, vous pouvez en toute sécurité rejeter tout son contenu. Si l'homme devient l'arbitre de la vérité, alors il n'y a plus de normes. C'est grâce aux manipulations génétiques que l'on a provoqué une grande diversité de mutations dans la faune et la flore. Mais si les mutations produisent de nouvelles variétés, il est faux de supposer que ces variétés sont des espèces en cours d'évolution. Une nouvelle variété de prime vert reste toujours une prime vert. Les moutons aux pattes courtes restent toujours des moutons. Le maïs aux feuilles tachetées reste toujours du maïs. Les pétunias doubles restent toujours des pétunias. Les gens supposent qu'il s'agit de nouvelles espèces, alors qu'il s'agit uniquement de variétés ne changeant en rien les espèces dont la Bible parle. En fait, on a pris l'habitude de classer sous la définition « espèce » ce qui, au sens biblique du terme, n'est qu'un ensemble de différentes variétés qui se situent au sein même de leur propre espèce. Mais revenons au livre de la Genèse. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Lorsque Dieu déclare qu'une espèce doit se reproduire selon son espèce, il protège ainsi l'harmonie de la nature en établissant des limites, empêchant l'apparition de nouvelles espèces, tout en permettant les innombrables variétés. Les races humaines sont à cet égard un bon exemple. L'espèce humaine présente des variétés raciales, dont chaque individu appartient à l'espèce humaine. Que penser alors de la supposition classique que l'homme descend de singes anthropoïdes comme l'orang-outan, le chimpanzé, le gorille? Dans un article intitulé « Les 12 dernières questions sur l'évolution », Le Figaro Magazine d'avril 1982 écrit, et je cite, « Si homme et singe sont si proches, ne peut-on envisager de les hybrider avec succès ?» C'est ce qu'ont essayé de faire des chercheurs de l'équipe soviétique d'Ilya Ivanov au Cameroun en 1926-27. Bien qu'un voile pudique ait été jeté sur ces expériences, on pense qu'elles visaient à unir des noirs à des gorilles ou à des chimpanzés mâles. Ce fut un échec. Hommes et singes ne possèdent pas les mêmes chromosomes et ne peuvent donc pas s'hybrider. Fin de citation. Que penser aussi de ces suppositions qui tentent à prouver que certains de nos organes ne sont plus que des vestiges, devenus inutiles? Des recherches ont apporté la preuve que ces organes sont loin d'être inutiles. La revue Science Médicale de septembre 1966, ainsi que la revue Médicale Cancer de 1964, révèlent entre autres que les appendices, dont l'importance a été si longtemps ignorée, sont des organes protecteurs contre le cancer. Ils font partie du système de défense immunitaire du corps humain, tout comme les amygdales. Si la création de nombreuses formes de vie n'avait pas eu lieu en même temps, beaucoup de créatures n'existeraient plus aujourd'hui, car leur survie et la propagation de leur espèce dépendent d'autres créatures. Beaucoup d'insectes, les abeilles et les guêpes par exemple, ont besoin de la floraison pour survivre. De nombreuses plantes ne peuvent se reproduire sans le butinage des insectes permettant la pollinisation. Cet exemple prouve qu'il y a eu création et non évolution. La plupart des étudiants supposent que les évolutionnistes ont les preuves de ce qu'ils soutiennent. C'est facile d'accepter les déclarations de ces experts comme s'il s'agissait de faits aussi solides que le roc. Bien souvent, on lit, sans y prêter beaucoup d'attention, des déclarations telles que « Nous supposons, peut-être, il est possible que, selon les meilleures preuves dont nous disposons, notre théorie est que » toutes ces expressions jalonnant leurs explications. Voici un exemple tiré d'un livre sur la Terre. Mais l'évolution continue encore de nos jours. Les tendances à la spécialisation persistent. On peut imaginer que, en temps voulu, et si rien ne vient interrompre ce processus, d'autres êtres mieux organisés détrôneront un jour les mammifères. En matière d'évolution, rien cependant n'est certain. Et on ne peut prédire que cette nouvelle phase se produira. On commence même à penser qu'il y a des chances pour qu'elle n'ait pas lieu. Fin de citation. Voyons le message que l'Éternel délivre dans le livre de Job à quiconque rejette le récit de la création. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. En fait, Dieu dit à Job, puisque tu dénigres mes desseins, puisque tu ne veux pas comprendre ce que je veux t'enseigner par ces épreuves, puisque tu crois savoir tant de choses, je vais t'interroger, et alors toi, Job, tu pourras au moins m'instruire. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte? Dieu parle ici du lever du soleil provoqué par la rotation de la terre. L'expression « pour que la terre se transforme » est traduite de l'hébreu « hafak ». Il signifie « pour que la terre se tourne ». Il s'agit d'une référence directe à la rotation de la terre de l'ouest à l'est, ce qui provoque le lever du soleil et son coucher à la fin du jour. Quant à la référence à l'argile et à l'empreinte, c'est une allusion au cachet cylindrique utilisé dans l'ancienne Babylone et qui, en tournant sur leur axe, laissait leur empreinte dans l'argile. Ce texte date d'environ 3700 ans et déjà, il était question de la rotation de la terre dans la Bible, alors que les hommes croyaient toujours qu'elle était plate, qu'elle reposait sur une tortue, ou encore qu'elle n'était qu'un objet immobile au centre de l'univers. Job connaissait des choses qui ne furent découvertes par la science que bien plus tard. Il affirme « Il, et il parle ici de Dieu, étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Si le septentrion et la terre sont suspendus dans le vide, si le chaos ne s'installe pas entre ces corps célestes, c'est parce qu'il y a des lois qui ont été imposées et qui sont maintenues par un grand législateur, Dieu. C'est de la Bible que nous pouvons tirer la vérité. Elle est plus fiable que toutes ces théories qui sortent de l'imagination de l'homme, des théories qui restent des spéculations, des propositions que l'on tient pour vraies et qui restent sans preuve. Après que Dieu eut parlé à Job, ce que vous découvrirez dans les derniers chapitres du livre, celui-ci comprit la leçon, une leçon que tous les évolutionnistes apprendront et devront bien admettre un jour.